texte que nous avons commencé d'exposer, qui se trouve en Éphésiens, chapitre 6 et verset 10 jusqu'au verset 20. Nous avons pris le temps dans les derniers mois de regarder, et même je pense que c'était même l'année dernière, il y a longtemps qu'on a commencé l'épître aux Éphésiens et nous sommes rendus maintenant en Éphésiens chapitre 6 et verset 10. Nous avons déjà regardé le verset 10, nous avons déjà regardé en partie le verset 11 et ce matin nous allons compléter un exposé sur le verset 11 et je vous invite à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20 pour garder toujours la vision globale du texte ici, même si nous prenons soin quelque part de décortiquer, de souligner certains aspects des versets. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Prions. Notre Père, nous te remettons ces moments, que tu les diriges, que tu en sois le maître souverain, que tu parles à nos cœurs, nos intelligences, afin de comprendre ce que tu as à nous dire par ta parole, non pas par des paroles d'hommes, mais ce que toi tu veux nous enseigner. Donne-nous d'être des bons soldats de Jésus-Christ, de combattre le bon combat de la foi, comme disait Paul à Timothée, et ainsi ne pas être des croyants affaiblis, des soldats blessés, des soldats peut-être inutiles, mais des soldats qui sont prêts à se lever pour conquérir, pour combattre et être prêts à aller de l'avant pour toi. Seigneur, c'est par ta grâce que cela est seul possible et nous te le prions pour chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre bon berger. Amen. Si on peut me donner l'image entière sur l'écran, je verrai mieux. Il y a deux images. Ah, bon, on va essayer. Alors, nous sommes dans le thème ici, si c'est projeté, le combat du croyant. Et nous avons donc toute l'image ici du passage. Et en fait, dans le passage ici, nous avons vu au verset 10 et 11 la force du croyant. Ensuite, nous sommes maintenant dans l'autre partie où nous regardons l'ennemi du croyant. Nous avons parlé lors du dernier message de la personne de Satan, sa nature, au travers de ses différents noms ou titres, sa puissance, nous allons en parler, nous allons l'esquisser ce matin, ses ruses, son armée, et nous regarderons plus tard l'armure du croyant et la ressource du croyant. Donc en résumé, le combat du croyant, la force du croyant, l'ennemi du croyant, l'armure du croyant, la ressource du croyant. Ce matin, nous allons particulièrement nous arrêter à la fin du verset 11, où il est question des ruses du diable. Nous avons déjà vu que nous avons besoin, au verset 10, de nous fortifier, parce que nous sommes affaiblis face à l'ennemi qui est beaucoup plus puissant que nous. Nous avons besoin de toute la puissance du Seigneur Jésus. Personne ne peut vaincre Satan par ses propres forces. Nous avons vu aussi qu'on doit se revêtir de toutes les armes et de tenir ferme contre le diable, et nous avons souligné qui est le diable. Mais la Bible dit aussi que nous devons veiller par rapport au diable, que nous devons lui résister, que nous devons plaider le sang de Jésus-Christ, que nous devons le vaincre par la parole, que nous devons ne pas lui donner accès, ne pas lui laisser avantage et plaider le sang de Jésus-Christ afin d'être vainqueur dans ce combat. Comme déjà mentionné, chaque croyant né de nouveau entre dans la présence de Jésus-Christ, mais découvre qu'il y a un adversaire qui avant le frappait dans le dos sans que peut-être il en était conscient. Cet adversaire a été vaincu à la croix et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'empêche pas moins que Satan et ses armées essayent d'affaiblir le croyant, d'affaiblir l'Église, d'attaquer le croyant, de nuire au royaume de Dieu sur terre, de nuire à Dieu. Et donc en s'attaquant aux enfants de Dieu, Satan s'attaque directement à Dieu lui-même. Mais nous sommes l'objet d'un combat, que l'on veuille ou non, Dieu nous a placés dans ce combat. On a regardé les titres du diable, on a regardé son origine et sa chute à cause de son orgueil, sa nature, et nous avons regardé notamment ses différents titres. Et nous avons opposé à ces noms ou à ces titres, bien sûr, les noms de notre Sauveur Jésus-Christ qui est notre grand vainqueur. Par exemple, Satan est appelé le malin, tandis que Jésus-Christ est appelé le bon berger. Satan est appelé l'ennemi, l'adversaire, tandis que Jésus-Christ, pour nous qui l'avons accepté, il est devenu notre ami, non pas notre adversaire. Le diable est aussi appelé le calomniateur des enfants de Dieu particulièrement, mais Jésus est notre avocat. Il est appelé aussi l'accusateur, tandis que Jésus est notre intercesseur. La Bible dit que le diable est le père du mensonge, tandis que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est aussi le père du mensonge, dont il est Jésus est la vérité. Il est aussi le Dieu de ce siècle qui aveugle, tandis que Jésus nous donne la lumière. Il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La Bible dit que Satan est appelé le prince de la puissance de l'air, tandis que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est appelé le prince de ce monde, le diable, tandis que notre Dieu est notre roi des rois. Le tentateur, tandis que Jésus est appelé le libérateur. Et finalement, Satan est symbolisé par l'image du dragon et du serpent, tandis que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le lion de la tribu de Juda. Autant il est venu comme le Messie souffrant, qui est mort sur la croix comme un agneau, sans défaut, sans tâche, autant il revient, le Messie qui revient dans toute sa gloire et sa puissance, comme le lion de la tribu de Juda. Nous n'avons pas eu le temps, l'autre dimanche, lorsque nous avons voulu décrire un petit peu, esquisser le tableau de qui est le diable, nous n'avons pas eu le temps de parler de sa puissance. Mais juste esquisser un trait qui montre sa puissance, notamment sa puissance de séduction, juste en regardant dans l'Ancien Testament la vie et le comportement du peuple d'Israël. Pourtant, un peuple choisi, délivré par la puissance de Dieu de l'Égypte, qui est sorti de l'Égypte avec des miracles que Dieu a accomplis de façon extraordinaire. Dieu a béni ce peuple de façon incroyable. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on est émerveillé de voir toutes les grâces, la puissance manifestée de Dieu. C'est Dieu qui a béni, protégé ce peuple. C'est Dieu qui a pourvu à ses besoins dans le désert. C'est Dieu qui leur a promis le pays promis. Canaan, c'est un peuple qui pourtant a succombé à maintes et maintes reprises aux séductions de Satan pour finalement devenir un peuple en partie, même si un faible d'Israël, comme on dit, qui est resté spirituel, un peuple idolâtre, apostate, qui a même adoré des idoles hideuses et qui s'est voué parfois aux démons du paganisme. Et quand on continue l'histoire d'Israël dans le Nouveau Testament, c'est un peuple qui a reçu le Messie, c'est un peuple qui avait l'Ancien Testament comme lecture, qui a vu par la lecture l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Jésus a prêché, Jésus a enseigné, Jésus a guéri, Jésus a délivré du diable. Et malgré tout, Israël, le peuple choisi, la rejeter, la condamner et finalement l'amener à la crucifixion. Le peuple s'était crié « Crucifie-le » à Pilate. Un abandon de la vérité et même à la fin des temps, dans le temps d'apostasie terrible dont Satan va séduire Israël, ils vont croire que l'Antichrist, un fils du diable en quelque sorte, sera confondu avec le Christ, le Fils de Dieu. Ainsi, Satan est capable de s'opposer aux bons anges. En Daniel, on voit qu'il interfère avec la réponse de Dieu. Il est appelé la puissance de l'air. Il est appelé Belzébul, le prince des démons. Il a une armée sous ses ordres. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Et en hébreu, il est dit qu'il est la puissance de la mort. Mais mes frères et sœurs, la bonne nouvelle pour nous qui croyons, c'est qu'on sait que sa puissance est limitée, tandis que celle de Dieu est illimitée, celle de son Fils Jésus-Christ est illimitée, celle de Dieu l'Esprit est illimitée. Et cela a été prouvé notamment par la puissance de sa résurrection et la puissance glorieuse dont on verra d'ailleurs l'accomplissement dans l'éternité. Donc nous pouvons nous prosterner devant Dieu qui seul nous donne la victoire face au diable. Nous n'avons pas d'autre recours que de nous réfugier en Christ, d'être fortifiés de toute sa puissance, de revêtir toutes les armes et de tenir ferme parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Qui d'entre nous, malgré le fait qu'on a la foi en Dieu, n'est pas déjà tombé dans le piège du diable ou dans le piège de ce monde ? Qui n'a jamais connu le piège du diable et qui n'a jamais crié à Dieu d'être délivré du filet de l'oiseleur ? Peut-être par la prière d'intercession personnelle des frères et sœurs, par le jeûne, par toute espèce de lecture ou de demande d'intercession à Dieu pour être libéré des liens de l'iniquité, du péché et du diable lui-même. La proposition de ce message ici ce matin est celle-ci. Pour mieux résister à l'ennemi, nous devons connaître ses ruses. Nous ne voulons pas connaître Satan, nous voulons connaître Dieu. Mais nous pouvons discerner les ruses du diable afin de ne pas tomber dans ses pièges et de combattre avec les armes que Dieu nous a données, on le verra en détail plus tard, mais d'agir de façon à prévenir plutôt que d'être guéri, d'être prévenu, de ne pas tomber dans les pièges, de se garder avant d'être lié ou tombé dans le piège de l'adversaire. Ici, nous allons souligner ce matin ce que sont les ruses du diable. Et nous allons regarder que le diable attaque le monde et que le diable attaque l'Église de Christ et ses enfants. La Bible parle des ruses du diable. Nous avons déjà mis l'accent sur le diable lui-même pour comprendre qui il est, sa personne, et ce matin, nous allons mettre l'accent sur ses ruses. Il est intéressant de voir que le mot grec ici pour ruse est méthodia, je ne vais pas compliquer les mots, mais tout simplement c'est le mot grec qui a donné le mot français méthode. Et dans le Nouveau Testament, il peut être traduit par différents mots, synonymes, notamment par tromperie, habileté, tricherie, fraude, artifice, poursuite dans le sens de tendant à nuire ou guet-apens. En fait, j'aimerais souligner que Satan est un expert en méthode d'attaque contre les enfants de Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu, donc il s'attaque aux enfants de Dieu et ce que Dieu a de plus cher, son Église. Cela signifie qu'il a une méthode, qu'il sait planifier ses attaques. Le mot grec ici signifie en fait l'idée de sournoiserie, d'astuce, de tromperie. Et John MacArthur, dans son commentaire, disait « À l'époque, on utilisait souvent le terme en parlant d'animaux sauvages qui guettent sournoisement leur proie et sautent dessus au moment où elle ne s'y attend pas. Les ruses du diable s'appuient sur la sournoiserie et la tromperie. » Le diable ainsi a ses stratégies, ses méthodes pour faire obstacle aux enfants de Dieu et au plan de Dieu parce qu'il veut usurper Dieu. Vous savez que par orgueil, il a chuté parce qu'il a voulu se faire égal à Dieu. Or, personne ne peut se faire égal à Dieu. Et merci de ce que notre Dieu reste Dieu et que Satan reste Satan avec ses limites. C'est ainsi que le diable a ses ruses pour s'attaquer au monde, pour que le monde perdu ne connaisse pas Dieu, s'éloigne de Dieu, mais aussi aux croyants à son Église pour affaiblir la vie de l'Église, la vie des croyants, pour les empêcher de porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous avons vraiment besoin de combattre l'adversaire et de veiller au sujet de ces pièges guet-apens qu'il tend aux enfants de Dieu. La Bible dit en Éphésiens 4, verset 14, à propos de la nécessité d'être des croyants fermes et matures afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Une façon avec laquelle Satan nous attaque, c'est de séduire des hommes qui eux-mêmes vont nous séduire ou nous tromper. En fait, tromper signifie induire en erreur, abuser, berner, duper, tricher, détourner, endormir par diversion. Ainsi, le terme de ruse ici est utilisé comme un animal sauvage traquant sa proie encore une fois, en se cachant pour ensuite fondre sur elle d'une façon soudaine. Une des ruses du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. En fait, on vit dans un monde très paradoxal. Il y a ceux qui ne croient pas du tout au diable et qui l'ont mis complètement de côté. Et quand vous parlez du diable, il vous sourit et se moque de vous, comme si le diable n'existait pas. Et il y a ceux qui croient au diable, mais qui carrément pratiquent l'occultisme et adorent le diable lui-même. Ainsi, la tromperie du diable, c'est de nous endormir ou de nous anesthésier pour que nous ne soyons plus des soldats vivants pour Christ. J'aimerais vous raconter une illustration que j'ai lue dans un livre au sujet du combat du croyant. Il s'agit d'un fait qui s'est passé en Corée. Durant la guerre de Corée, des soldats faisant partie d'un commando sur la ligne de front avaient pour mission d'empêcher l'ennemi de s'introduire derrière des lignes. Un jour, des danseurs se présentèrent armés de beaux sourires, faisant des courbettes au son d'une gentille musique. Les soldats étaient incapables de faire feu, malgré l'ordre formel de tirer à vue. En un clin d'œil, ils sont morts, tous poignardés. Les danseurs avaient des couteaux dissimulés dans leur dos. L'ennemi a ainsi percé une brèche, pénétré sur le territoire et n'a pas cessé de détruire et faire des ravages dans le camp par la suite. Ces soldats ne connaissaient pas bien à qui ils avaient affaire. L'ennemi est assez rusé pour se cacher et tout d'un coup attaquer le croyant. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question quand certaines pensées ou tentations peuvent venir, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient du diable? Bon, le diable peut utiliser notre chair et nos convoitises pour nous attaquer, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on peut se penser, mais je ne veux pas cela. Et malgré cela, on dirait que cette chose persiste, ou dans mon cœur, ou dans mes pensées, ou dans mes désirs. C'est comme quelque chose que, de l'extérieur, il nous est imposé. C'est vrai que Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je hais, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il n'empêche pas moins ce que nous devons parfois, dans nos vies chrétiennes, parce que nous faisons face à des obstacles que dresse l'ennemi, de discerner l'action de l'ennemi. Il y a des mauvais esprits qui peuvent attaquer les croyants et l'ennemi suggère des pensées, attaque les croyants dans leurs pensées et trompe les croyants comme si ça venait d'eux-mêmes alors que c'est Satan qui suggère cela pour faire croire que c'est eux qui pensent cela. Et nous devons veiller, et c'est parfois pas toujours facile, n'est-ce pas, de discerner ce qui vient de notre chair, ce qui vient de l'ennemi. Mais l'ennemi est très subtil pour essayer de mélanger les deux. Il n'empêche pas moins que, dès le départ, nous devons veiller à garder nos cœurs et nos pensées afin que l'ennemi ne vienne pas nous obséder ou ne vienne pas ancrer en nous des choses qui sont des mensonges que Satan veut nous communiquer comme si ça venait de nous-mêmes. Ainsi, le diable attaque le monde. Comment il attaque le monde? Alors, j'ai marqué tout d'abord en semant le doute. Et on connaît cela depuis la Genèse où Satan, déguisé en serpent, a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Non seulement Satan sème le doute sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, et franchement, on peut penser qu'un des plus grands problèmes que nous avons face à l'ennemi, nous-mêmes, c'est de douter de toute la puissance de Dieu qui peut nous garder. Dieu a-t-il réellement dit? Nous pouvons croire intellectuellement à ce que Dieu a dit, à ce que Jésus-Christ a dit, mais est-ce que nous le croyons réellement dans nos cœurs? Est-ce que vraiment toute notre foi est placée dans la parole de Dieu pour faire face à l'ennemi? Ou est-ce que l'ennemi indirectement utilise notre incrédulité ou place le doute afin que la parole ne soit pas aussi agissante et tranchante dans nos vies? Un deuxième aspect que Satan utilise, c'est qu'il aveugle le monde. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'évangile est quelque chose de très simple. Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est mort afin qu'on ait la vie, et Jésus est ressuscité. Il y a une simplicité dans le plan du salut extraordinaire qu'un jeune enfant peut même accepter dans son cœur. Et pourtant, le diable envoie toutes sortes de fausses religions, de faux prophètes, pour aveugler les hommes et pour qu'ils ne croient pas à cette simplicité du salut pour être sauvés. Nos cœurs sont bien compliqués. Nos religions, entre guillemets, sont bien compliquées, alors que l'évangile est extrêmement simple. Mais nous sommes bien compliqués parce que nous sommes aveuglés dans notre intelligence. Il y a des gens très intelligents qui se croient très intelligents et qui pourtant ne comprennent pas les 4 ou 5 points du plan du salut de Christ. Pourquoi ? Parce que leur intelligence a été aveuglée. Un troisième aspect qu'utilise le diable pour attaquer le monde, c'est en mentant au monde. Le diable est un menteur. Et Jésus l'a dénoncé en Jean 8, verset 44, au sujet de ceux qui lui résistaient constamment. Dans l'évangile de Jean, il y a ceux qui croient de plus en plus et il y a ceux qui s'enfoncent dans l'incrédulité de plus en plus et qui rejettent le Christ malgré ses enseignements. Et en Jean 8, 44, Jésus a dit, en parlant de ceux qui le rejetaient malgré son enseignement, « Vous avez pour père le diable ». Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors que Jésus parlait non pas de son propre fond mais du fond du cœur de Dieu étant Dieu lui-même et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est terrible cela. Et ils ont fait Jésus menteur. Et en faisant Jésus menteur, ils déclaraient le diable vrai, alors que Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Ainsi, il faut savoir sur quel chemin on est. Si on est sur le chemin de la vérité ou le chemin du mensonge, parce qu'on pourrait être trompé par les mensonges de l'ennemi sans même le savoir. L'ennemi étant comme un être, n'est-ce pas, qui peut gérer les êtres humains avec des fils et les conduire un peu comme Pinocchio, n'est-ce pas, ou une marionnette. Ainsi, Satan essaie d'avoir le culte de sa personne. En voulant prendre la place de Dieu, il veut se faire adorer. En fait, il est un imitateur de Dieu. Dans l'Apocalypse, on voit de même qu'il y a la Trinité, il y a Satan, son fils, et puis le faux prophète, qui va être comme l'imitation du Saint-Esprit, le consolateur pour nous, mais celui qui va agir pour le fils de Satan, l'Antichrist. Satan imite constamment Dieu, en fait il veut usurper Dieu, s'il était possible. Et donc il est capable de se faire adorer par toute espèce de religion, même si les religions, ces religions se contredisent, il est capable d'inventer toutes sortes de religions pour se faire adorer et parfois même faire adorer ses démons. Ainsi, on peut tomber dans le piège de la religion. C'est pour ça que Jean nous avertit dans sa première épître, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Non seulement Satan séduit le monde par de faux prophètes, mais il peut essayer de vouloir s'ingérer dans l'Église par de fausses doctrines ou de faux prophètes afin de faire dévier l'Église par une séduction de fausseté spirituelle ou doctrinale. En 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul aussi nous avertit, L'apparition de cet impie, l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, celui qui croit en la vérité va aller de plus en plus dans la vérité, celui qui se tourne vers les ténèbres va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et s'égarer. Et malheureusement, Satan a une puissance de séduction telle qu'il va séduire à la fin des temps le monde pour que le monde accueille le libérateur, l'Antichrist, afin de libérer le monde de tous ses problèmes, et les problèmes ne font qu'augmenter aujourd'hui, et on prépare ainsi, par ces problèmes-là, la venue d'un super-homme, l'Antichrist, qui fera même des miracles. Ainsi, il est en dessous de tout ce qui est religion, caché, certes, il a un empire religieux qui est dans le monde, et qui est représenté dans l'Apocalypse par la grande Babylone, si vous lisez cela en Apocalypse. Nous devons veiller, et il est étonnant d'écouter Jésus lui-même qui dit qu'à la fin des temps, plusieurs me diront en ce jour-là, la fin des temps, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Il y a des gens qui ont même la capacité de faire des miracles au nom de Dieu, alors que c'est une puissance que Satan leur a accordée. C'est lui qui assaille le monde, non seulement en semant livrer le faux évangile, mais aussi l'immoralité, la cupidité. Il utilise Satan, la chair, la convoitise des hommes pour les entraîner loin de Dieu. Et je pense que dans nos cœurs, nous ne pouvons pas à ce moment-là rester insensibles. Et nous avons envie de répondre à l'appel de Dieu, comme l'apôtre Paul, cet appel qui lui a été lancé après sa conversion, cette conversion miraculeuse, ce demi-tour miraculeux. Et en Actes chapitre 26, versets 16 à 18, Dieu lui dit à Paul, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul, je n'ai pas eu une conversion semblable à lui, je ne suis pas devenu aveugle, je n'ai pas vu Jésus-Christ, je n'ai pas vu Jésus-Christ face à face et je ne suis pas tombé de mon cheval, enfin, façon de parler. Mais Jésus a fait un miracle dans nos vies. Si nous sommes sauvés, il a fait exactement le même miracle que dans la vie de l'apôtre Paul. Nous n'avions pas besoin d'avoir la vie de l'apôtre Paul pour nous convertir. Certainement, la plupart d'entre nous, j'espère, nous n'avons pas persécuté les chrétiens, en tout cas, ou nous ne les avons pas fait tuer, comme était complice l'apôtre Paul du meurtre d'Étienne. Mais il n'empêche pas moins que Dieu nous appelle à être ses témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Dieu nous appelle à conquérir le monde parce qu'il y a un qui veut conquérir le monde pour aveugler le monde afin que le monde ne soit pas sauvé. Ainsi, Dieu nous appelle à nous lever. Mais toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Est-ce que nous sommes capables de répondre à cet appel, sachant qu'il y a des gens qui sont liés par le diable? Je me souviens d'une dame qui est venue nous voir un jour dans mon bureau, en compagnie, en présence de mon épouse. Nous l'avons entourée. Et c'était une dame qui avait des cauchemars toutes les nuits et qui se tenait avec une épée derrière la porte d'entrée ou un couteau en pensant que quelqu'un allait rentrer dans la maison. Et pendant des mois, elle a vécu ces cauchemars et elle n'était pas capable d'en être délivrée. Ça semble un peu bizarre cette histoire, n'est-ce pas? On peut dire non, il faut qu'elle aille se faire soigner. Il est temps qu'elle aille voir un psychiatre et avec toutes sortes de médicaments, on va calmer, n'est-ce pas, ses phobies, ses mauvaises pensées. Mais elle n'avait pas besoin de cela, elle avait besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est devenu son libérateur. Et ces choses ont disparu. Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Jésus est tout puissant. Vous savez, parfois dans nos vies, nous aimons d'autant plus le Seigneur qui nous a délivrés de la profondeur de nos péchés, de la boue de nos péchés et de nos ténèbres. Nous étions aveuglés. Et ce matin, si vous êtes sauvés, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous ne faites plus partie de l'emprise du diable, du royaume des ténèbres. Vous êtes devenus des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous marchez dans la victoire en Christ, purifié par son sang. Et même si Satan nous accuse, et il a toujours de quoi nous accuser à cause de nos imperfections, nous avons un intercesseur, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Soyons vainqueurs, parce que Jésus-Christ est vainqueur pour nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ce que Jésus a fait. Et nous devons prendre position par la foi face à l'ennemi, et conquérir le monde et nous lever parce que nous avons le salut en Christ. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui, en faisant du porte-à-porte, vont amener les gens à la connaissance du salut. Ils peuvent vous assurer qu'après avoir discuté des heures avec eux, ils vont vous convaincre que si vous devenez témoin de Jéhovah, vous n'aurez jamais l'assurance du salut, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas. Mais nous qui l'avons, nous qui connaissons la lumière de Christ, que faisons-nous avec cette lumière? Satan attaque le monde pour l'aveugler, pour qu'il ne connaisse pas la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vous lire, pour terminer, je suis que dans la première partie de mon message, et je vais m'arrêter parce que j'en ai encore pour longtemps. J'avais tout un exposé sur les ruses du diable, mais nous les verrons une autre dimanche, d'accord? Mais c'est vrai qu'on est pressé parfois de savoir comment déjouer les pièges de l'ennemi. Mais je ne peux pas vous garder encore une demi-heure, je pense. Alors, j'aimerais vous lire un commentaire avant de terminer sur le sujet que Satan attaque le monde. À notre propre époque, Satan séduit le monde en lui faisant accepter avidement le mouvement de libération de la femme, qui rejette l'ordre de Dieu pour la famille. C'est un commentateur, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en fait, le mouvement féministe a entraîné beaucoup de désordre dans la famille. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il vit, en Californie notamment. La nouvelle moralité qui est en fait un manque de moralité. Tout est relatif. Si tu es bien dans ta peau, tu fais cela, c'est bon, c'est ta morale. Mais ce n'est pas la morale de Dieu, ce ne sont pas les vertus de Dieu. L'homosexualité qui est une perversion de la sexualité. Nous sommes envahis dans ce monde par des esprits impurs. Et l'homosexualité est une déviation de la sexualité et est clairement réprimandée dans la Bible, notamment dans l'Épître aux Romains. Et c'est ce que vivait notamment l'apôtre Paul à l'époque de l'Empire romain. Et la ville de Corinthe était très connue par sa perversité sexuelle. La prolifération aussi, non seulement il y a toutes sortes de mouvements qui entraînent les hommes loin de Dieu, mais il y a aussi la prolifération de sectes païennes et chrétiennes apostates et de nouvelles philosophies comme n'en a connu aucune autre période de l'histoire. Et cela traduit l'activité d'esprits séducteurs et de doctrines de démons. Je me souviens, une fois, dans mon cours à l'école biblique, j'ai dû étudier les sectes. Et donc, vous savez, j'étais pas trop motivé. On préfère connaître Dieu, Jésus-Christ, sa parole, que d'apprendre au sujet des sectes. Mais quelque part, il faut savoir. Et savez-vous quoi? J'ai découvert qu'il y avait une religion qui était née en France, qui s'appelait les adorateurs de l'oignon. Ah, beaucoup de gens pleuraient. Hein? Écoutez, c'est fou quand même. C'est une histoire vraie que je vous raconte. J'ai lu ça, les vrais adorateurs de l'oignon. Mais vous vous rendez compte comment l'esprit de confusion peut naître chez des gens? Et je vous passe toutes les sectes qui existent dans ce monde, et notamment à une époque, il y avait l'invasion de la secte des Raël et des extraterrestres. C'est incroyable comment l'esprit peut devenir confus, et les gens sont sincères. Mais comme j'avais un ami au Québec, il me disait, ils sont sincères, mais sincèrement perdus. Ils ne le savent même pas. il y a une prolifération de sectes, de mouvements qui aveuglent les esprits, qui les rendent confus. Au moment même du christianisme, on nie la divinité, les miracles, la résurrection, le sacrifice expiatoire, l'avènement et le jugement de Christ. La théologie libérale, la psychologie, le mysticisme et même l'occultisme éloignent l'Église des Saintes Écritures. C'est incroyable comment dans les religions d'ailleurs et les sectes, l'occultisme a sa place. On n'a pas le temps de développer cela maintenant. Toutes ces choses ne sont que des manifestations des ruses du diable envers l'humanité. De toutes les façons troublantes et trompeuses qu'il peut imaginer, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Non seulement le diable sème l'immoralité, la perversité, la fausse spiritualité, mais aussi il empêche, il vient prendre, n'est-ce pas, on trouve ça dans la parabole du semeur, le diable vient lui-même enlever la semence. Et aussi, le Seigneur nous avertit, notamment dans Matthieu 24, qu'il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, nous avons, par la grâce de Dieu, en nous, qui sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous garde et nous donne du discernement. Mais nous pourrions, en tant qu'enfants de Dieu aussi, nous laisser séduire par les attaques du malin et toutes ses ruses. Et c'est ce que nous verrons, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, mais en croyant qu'à chaque ruse de l'adversaire, il y a une réponse de Dieu et une victoire à aller chercher en Christ. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, notre Dieu, nous nous inclinons devant toi. Vers qui irions-nous, toi qui es les paroles de la vie, toi qui es le libérateur, notre intercesseur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre ami, notre bon berger. Merci de ce que tu prends soin de nous. Et à chaque attaque de l'adversaire, tu veux nous garder, nous protéger, et tu veux nous apprendre à être des vainqueurs, car tu as vaincu toi-même par la puissance de ta mort et de ta résurrection. Tu as vaincu l'adversaire, celui qui avait la puissance de la mort. Merci Seigneur Jésus de ce que nous pouvons t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Pendant que nos têtes sont baissées, que nos yeux sont fermés, que nous sommes dans une attitude de recueillement, je veux vraiment donner... Il me semble sur mon cœur, j'ai ce fardeau. Si quelqu'un ce matin ne connaissait pas encore le Seigneur, alors qu'il lève la main et qu'il dit oui, je voudrais connaître le Seigneur, être libéré de l'adversaire, entrer dans la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'aurait pas fait encore le pas envers le Seigneur? Ou y a-t-il quelqu'un qui dit prier pour moi et tout le monde est dans un état de recueillement? Et qui dit, oui, j'ai certains combats, priez pour moi. Je désire la victoire en Christ. Et je la vois. Je pense que c'est nous tous qui sommes dans ce combat, n'est-ce pas? Mais il y a parfois un combat plus difficile et des moments peut-être où il faut combattre plus. C'est peut-être votre cas en ce moment. Voilà, si vous voulez lever la main, ce n'est pas pour moi que vous le faites, mais c'est vrai que c'est un acte d'humilité de reconnaître qu'on est dans un combat, qu'on a besoin de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces personnes qui ont levé la main devant toi, en fait, et dans leur cœur, qui désirent une pleine victoire. On est tous dans un combat. Moi-même, Seigneur, je m'approche de toi pour te prier, te demander secours. Chacun de nous, nous avons besoin de ta présence, de nous fortifier par ta toute puissance, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu et de tenir ferme contre les ruses du diable. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir combattre l'adversaire, non pas par nous-mêmes, mais par tes armes. Et je te prie au nom de Jésus-Christ à l'instant de bénir ces frères et sœurs qui reconnaissent particulièrement ce besoin de victoire dans leur vie. Merci de tout ce que déjà tu as la victoire pour eux, tu as acquis la victoire. Merci qu'ils entrent pleinement dans ta victoire, dans tous les comportements de leur vie, pour te glorifier, t'honorer, te servir. Je te le demande au nom de Jésus et nous t'adorons, Seigneur, toi qui es l'agneau, qui est sur le trône de Dieu. Nous te contemplons à l'instant et nous te donnons toute louange, gloire et honneur au siècle des siècles. Amen.